Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Fréquence Mistral et c'est l'heure d'aller au jardin. Et pour nous accompagner dans cette aventure, c'est Serge. Bonjour Serge.
Bonjour Alexia.
Comment allez-vous Serge ?
Très bien, merci.
Alors, avant de commencer l'émission de la journée, revenons sur l'émission d'il y a 2 semaines.
Mais j'espère qu'on a mis beaucoup de plantes dépolluantes dans les maisons, donc on avait parlé l'autre fois. Ce qu'on avait parlé sur les terreaux, les engrais, que j'espère que vous avez un petit peu retenu, tout ce qu'on avait dit. Pareil sur les gazons en plaques, si vous en avez fait, surtout arroser, continuer les arrosages, et bien surveiller, c'est très important. Voilà, donc continuer aussi à arroser. Bon, là, il a plu il n'y a pas très longtemps. Dimanche, il a fait un très gros orage. Ça a bien arrosé les jardins, c'est bien.
Ça n'a pas plu à tout le monde, mais au moins les jardins sont plus verts.
Ils sont bien, bien arrosés, ouais, c'est vrai, c'est bien quoi. Ça fait du bien pour les jardins parce que ça en avait beaucoup besoin. C'était très, très, très sec. Continuez toujours à lever les petites fleurs fanées dans vos petits pots, tout ça, sur les terrasses. Il faut le faire.
Commençons à présent avec l'émission du jour. Et vous allez nous parler oliviers.
Donc les oliviers que tout le monde connaît parce que c'est un arbre que tout le monde aime beaucoup dans la région et dans toute le 83 aussi, le 13, c'est un arbre qui est connu quoi. L'olivier, donc l'olea, c'est le nom latin comme tout le monde, pas tout le monde connaît. L'olea europea est famille des oléacées. Donc en ce moment, il faut faire un traitement contre la cochenille, donc il faut le faire parce que c'est assez important.
Qu'est-ce que c'est la cochenille, Serge ?
Cochenille, il y a différentes cochenilles. Il y a la cochenille un peu comme des petites arapèdes. Il y a la cochenille floconneuse, c'est un petit peu blanc qui se met sur les oliviers, donc il faut faire des traitements. Dans le bio, c'est important. Hein.
C'est quoi le risque si on ne traite pas les oliviers ?
C'est pas bon parce qu'après, ça va ravager toutes les feuilles et les fruits et tout, donc... Dû à la récolte, ça ne va pas être bon après. Quoi.
Et ça, les traitements, on les trouve directement en magasin ?
En magasin, oui, tout à fait. Donc, plutôt de préférence, dans du bio, c'est mieux.
Bien sûr, comme d'habitude.
Comme d'habitude, voilà. Donc, pensez aussi après, à la base de votre olivier, vous avez toujours des petites repousses, des rejets qui partent. Ça, vous pouvez les recouper à ras. Ce n'est pas gênant, donc... Avec un bon sécateur, vous enlevez tout ça.
Je suppose que c'est plutôt d'un point de vue esthétique là, qu'on fait ça.
Oui, esthétique aussi. Et puis, c'est pas très bon pour l'arbre aussi. Donc, il vaut mieux l'enlever parce qu'autrement...
Ça l'étouffe un petit peu ?
Ça y enlève un peu de la force, quoi.
D'accord.
Donc, pensez à faire ça. Donc, à savoir que l'olivier, en principe, supporte très bien le soleil. Donc, il se plante en plein soleil. Hein.
Bizarrement, pour survivre dans notre région, oui, heureusement qu'il subit bien le soleil.
Donc, il lui faut aussi un sol bien drainé. Alexia va me demander c'est quoi.
Ah, vous avez vu mes grands yeux interrogateurs, oui, je ne sais pas.
Un sol bien drainé, c'est-à-dire que l'eau ne stagne pas au fond d'un trou.
D'accord.
Quand on va planter un olivier, il faut penser à faire un bon drainage au fond. Apporter beaucoup de cailloux, même des tuiles cassées, tout ça, pour faire un bon drainage sur 50 à 60, mettre ça au fond du trou. Que quand vous allez mettre votre olivier avec un bon terreau plantation, un bon engrais organique déshydraté, bien mélangé, après à l'arrosage, au moins l'eau ne stagnera pas au fond du trou parce qu'après, pour les racines, ce n'est pas recommandé pour un olivier. Ce que vous avez planté cette année aussi, il faut les arroser au moins une fois par semaine.
Comme ce dont on a parlé plus amplement dans les autres émissions, vous voulez dire toutes les plantations d'arbustes, d'arbres, etc.
Les autres plantations, c'est 2 fois par semaine. D'accord. Mais l'olivier, ça ne s'arrose qu'une fois, ça suffit parce que c'est un excès d'eau pour l'olivier, ce n'est pas très bon en fait.
D'accord.
Les feuilles jaunissent après elles tombent et ce n'est pas bon. Quoi. Donc une bonne fois par semaine, la première année, c'est bien. L'olivier, ça va monter à une hauteur entre 10 et 15 mètres. Pas plus. Mais bon, moi je vous dis les hauteurs où ça peut arriver. Hein. Mais je pense que les gens n'attendent pas cette hauteur-là pour le tailler. Mais moi j'en ai eu vu, c'est vrai, sur la côte, de très très beaux oliviers, mais très grands, c'est magnifique. Parce que quand on a un très grand jardin, on peut les laisser pousser en fait. Hein. C'est beau. Hein. Mais bon, ici dans la région, c'est surtout des vergers, tout ça, donc on les taille à hauteur, qu'on puisse ramasser les olives. C'est plus pratique, c'est plus logique. Quoi. Donc la plantation de l'olivier se fait de mars à juin. Je pense que maintenant il fait très chaud, c'est, c'est pas trop recommandé. On peut faire ça, mais bon, après, il va falloir surveiller les arrosages. Donc, c'est très, très dur. C'est la variété la plus connue ici, c'est la Glandou. C'est ce qui pousse, qui résiste bien au froid, tout ça, et qui est une très bonne huile qui se vend bien ici, quoi.
En sachant que si on ne sait pas comment faire son huile, on peut très bien mener ses olives au moulin de l'olivette, oui, qui permet de récupérer de l'huile, oui, de l'huile en collectif, oui, en collectivisation, vrai, du moins.
Voilà. C'est pratique et c'est bien. Donc après, on disait donc la plantation, la taille de printemps, ouais, donc c'est tout ce qu'on a à dire sur l'olivier. À mettre aussi, donc l'olivier, il se plante, donc on peut le planter en isolé, c'est très joli, en verger comme on en a parlé.
Quand vous dites en isolé, c'est-à-dire seul?
Oui, on peut mettre ça au milieu d'un gazon, c'est beau. Quand vous avez un gazon qui fait, je sais pas, entre 300 ou 500 mètres carrés, vous mettez un bel olivier au milieu. La couleur n'est pas pareille, donc ça va faire ressortir la couleur de... Parce que le gazon est vert foncé, l'olivier est vert pâle. Donc de suite, ça va ressortir au niveau d'un gazon. C'est sympathique. Les oliviers poussent très bien dans des bacs aussi.
C'est ce que j'allais vous demander, puisqu'on parlait pour les gens qui ont des grands terrains. Mais les gens en terrasse peuvent se procurer un olivier.
Oui, ça pousse très bien en bac. Toujours pareil, à la plantation, mettre cailloux ou billes d'argile au fond pour faire un bon drainage toujours. Un bon terreau plantation et puis ça devrait le faire.
Et les pots, est-ce qu'il va falloir les changer suite à la croissance de l'arbre?
Je pense qu'au départ, il vaut mieux prendre une pot déjà assez conséquente pour être tranquille pendant un moment, quoi.
D'accord. Oui, il vaut mieux prévoir, donc. Pour les oliviers, je pense qu'on a fait le tour, me semble-t-il.
On a fait le tour.
Alors parlons des autres arbustes et de leur taille, pour qu'ils soient plus jolis.
Alors on va parler de la taille des arbustes, les arbustes courants à feuilles persistantes. C'est quoi les arbustes à feuilles persistantes?
Oula, les questions fusent, je ne sais pas, Serge.
Ce sont des arbustes qui ne perdent pas donc le feuillage en hiver. Ils sont toujours verts 12 mois de l'année, en fait.
Ah.
Donc vous avez 2-3 arbustes ou même un arbuste tout seul qui est en isolé. Vous voulez le faire un peu ressortir pour qu'il soit un peu plus joli. Bon, moi, j'ai par expérience de le faire assez souvent. C'est pour ça que je vous en parle. C'est très, très beau. En fait, il faut couper les branches basses sur une hauteur de 50 à 60. Vous partez du bas et vous remontez. Vous coupez toutes ces branches basses tout le tour. Donc, on va voir, en fait, les grosses branches principales. Et de loin, ça va faire une esthétique plus jolie au niveau de l'arbuste. Le style le laurier-tin que tout le monde connaît ici, c'est très très joli. Donc vous verrez, vous dégagez toute la partie basse. Après, vous le laissez comme ça en arbustif sauvage, ou après on peut le tailler en arrondi ou en carré. Si vous avez un endroit bien précis, en boule, c'est très joli un laurier-tin. Il y a le laurier-tin, il y a le pittosporum. Bon, tous les arbustes persistants peuvent très bien se tailler en boule ou en carré.
Et ça, même si on est peu doué en jardinage, c'est facile à faire de tailler en boule?
Il faut y aller doucement. En fait, il faut commencer sur la partie haute, aller toujours un peu plus haut que si on fait des trous. Après, on arrive à se reprendre. Il faut se reculer plusieurs fois quand on taille un arbuste, en fait, pour voir les défauts. Il faut se mettre de loin pour regarder quand on taille ou en carré ou en arrondi, on arrive à voir tous les petits défauts à droite ou à gauche, si c'est plus bas, plus haut, et on arrive à reprendre après les endroits qui ne sont pas bien arrangés, en fait.
Donc par petites touches, donc.
Voilà, par petites touches toujours.
Très bien.
En ce moment, on a beaucoup sur les lauriers roses qui sont très très jolis cette année. Je ne sais pas si c'est dû à la chaleur, mais ils sont magnifiques.
Ils sont magnifiques, hein. C'est vrai.
Ils sont fleuris, mais bon, ils tombent beaucoup aussi les feuilles, ça c'est dû à la chaleur, hein. Mais ils sont remplis de pucerons. Par contre, je ne sais pas si vous avez regardé, Alexia.
Non, je n'ai pas allé regarder d'aussi près. J'ai regardé les fleurs, ça m'a paru très beau. Je suis restée là.
Les pucerons, les rosiers, pareil, ils sont magnifiques cette année. Donc, il y a beaucoup de pucerons. Donc, à faire des traitements ou à traiter le soir avec le jet d'eau, comme on avait parlé l'autre fois.
Toujours bien en dessous de la feuille.
Dessous de la feuille, Alexia.
Je suis très au point aujourd'hui.
Donc, restez abondamment le soir, surtout de préférence, ou le matin de bonne heure, Alexia, après le café.
Oui, oui, alors après le thé pour certains, soyons zen.
Donc, il faut le faire, quoi. C'est bien parce que ça épuise l'arbuste, c'est pas très bien, quoi.
Et les lauriers, on peut les tailler également? Vous parliez du laurier, mais les lauriers roses, est-ce qu'on peut les tailler? Parce que c'est des arbustes qui prennent énormément de place.
Le laurier rose se taille, mais il ne se taille pas maintenant.
Oui, je me doute.
Bon, là, on peut tailler les fleurs fanées, il n'y a pas de souci. Mais après, ça se taille au printemps. Donc
on attendra encore un petit peu.
Début mars, on peut tailler un laurier rose sans problème.
Et pareil, toujours en respectant des formes, là aussi, boule ou carré.
Plus ou moins. Après, bon, il y a des. Moi, j'ai pas mal de clients qui ont des lauriers roses en haie complète, des haies qui font 50 mètres de long. Donc après, c'est joli parce qu'il y a plusieurs couleurs. Oui, après, on les taille une ou deux. En principe, l'oreille rose, il se taille tous les deux ans. Henri, hein.
D'accord.
Il faut laisser, c'est mieux. En arbuste, vous pouvez le tailler tous les ans, vous le rabaissez de 50 cm, c'est bien. Après, comme on disait à peine, dégagez un petit peu le bas, c'est plus joli parce qu'il va ressortir au niveau du haut. Ça fera une touffe plus fleurie et le bas sera un petit peu plus dégarni.
Et c'est plus facile pour entretenir le sol en dessous.
Voilà, c'est mieux, je pense.
D'accord. Est-ce que pour le traitement, donc on rince les feuilles, on enlève les pucerons?
On rince les feuilles, oui. Après, il y a des traitements en bio qui marchent très bien aussi. Donc, si vous avez ça, du savon de Marseille, des trucs comme ça, dans le bio, dans les magasins spécialisés dans le bio, vous trouverez ça. Il n'y a pas de souci. En respectant toujours bien les dosages.
On le rappelle, toutes les deux semaines, bien respecter les dosages, sinon vous risquez de faire du mal à la plante.
Et oui, ce n'est pas recommandé en fait, hein.
Et vous allez maintenant nous parler de tout à fait autre chose, vous allez nous parler du buis et de la chaux.
Le buis, actuellement, il a un petit souci, on appelle ça la pyrale du buis, c'est une petite chenille tout ça, qui vient sur le buis, qui mange les feuilles, et après la feuille devient toute marron, donc ça le dessèche complètement en fait. Donc c'est à surveiller, il y a des produits pareils qui se vendent là-dedans dans le bio, à surveiller, à traiter rapidement, le faire là, mettant de suite et le refaire dans 15 jours. Mais il ne faut pas se laisser gagner parce qu'après, le buis va se dessécher très très vite, surtout si vous avez déjà des buis qui ont quelques années, c'est dommage de les laisser mourir, quoi.
Et oui. Et ça, on s'en rend compte assez rapidement ou est-ce qu'il est déjà trop tard quand on s'en rend compte?
Non, si on est assez attentif dans le jardin, qu'on voit, on regarde son jardin régulièrement, on le voit et les feuilles commencent à devenir un petit peu marron. Donc, dès que vous voyez que ça commence à devenir un petit peu marron avec des trous, il faut y aller, quoi.
Donc, bien aller vérifier son buis ce soir ou tout
voilà,
de suite, d'ailleurs.
À surveiller, oui.
N'hésitez
tout
pas.
À fait. La chaux, je suis descendu sur... je connais ce produit depuis très longtemps. Mais ici, on ne l'utilise pas trop dans la région. Je ne sais pas pourquoi. Avant, ils le faisaient. Il y a nos ancêtres, il y a très longtemps en arrière. Sur Cannes, Nice, dans des beaux endroits, dans le 83... Il utilise beaucoup dans les vergers, dans les grands, grands jardins. Il badigeonne le tronc. Vous allez me dire à quoi ça sert, Alexia.
Oui, j'allais vous demander quel était l'intérêt, oui.
L'intérêt, c'est que ça va éviter à pas mal de chancres, de champignons, les insectes, la vermine, tout ça, venir sur les troncs.
Donc, par exemple, éviter au buis de récupérer la chenille.
Voilà, éventuellement. Mais en fait, ça, c'est surtout sur les troncs, pas sur les arbustes.
D'accord.
Hein. Donc, tous ceux qui arbrent fruitiers, les agrumes, les arbres d'ornement aussi. Donc, la chaux, c'est à badigeonner avec un pinceau tout simplement. Ça se vend en boîte ou en sac de 5-10 kilos. À bien diluer, on badigeonne le tronc de haut en bas jusqu'à la hauteur du collet, au départ des branches en fait.
D'accord.
En plus, ça a un effet très très joli, assez esthétique parce que c'est blanc et je trouve que c'est beau dans un jardin. Vous avez ça sur un bel arbre au milieu d'un gazon, vous mettez du blanc au milieu, ça ressort, c'est sympathique.
Et ça, il n'y a aucun risque avec la chaux pour les arbres?
Ah non, c'est de la chaux qui est vendue spécialement pour les arbres, justement. Hein. Donc, il n'y a aucun souci, aucun problème. Hein. Avant, on traitait tous les arbres, on les traitait à la chaux. Hein. Nos ancêtres faisaient ça, donc on n'avait pas de problème. Quoi.
Très bien. Autre chose sur la chaux?
Non, ça va aller, la chaux, il n'y a pas de souci.
Eh bien, on va passer aux lavandes, on est dans le thème, puisqu'il y a eu énormément de fêtes de la lavande ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la lavande,
Serge ? La lavande, eh bien, en ce moment, ça y est, on commence à la couper. Sur le plateau de Valençol, ça a commencé, ils ont commencé à couper
ça
les
lavandes.
Ça
fait déjà un moment, d'ailleurs.
Oui. Bon, les jardins aussi, moi, j'en ai coupé l'autre fois énormément. J'en ai porté à Marie, notre amie la fleuriste, qui était ravie.
Ça doit faire joli dans les bouquets, un joli agrément.
En plus, cette année, je ne sais pas, mais elle a une odeur très, très forte. C'est super bon. Donc, bien couper la lavande suivre le mouvement de du lavande ou du lavandin, bien à ras dessus le petit départ du feuillage vert, à la cisaille bien sûr, c'est mieux. Une bonne cisaille ou un bon sécateur si la lavande est beaucoup plus petite. Donc à faire ça maintenant, il faut le faire.
Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup et on peut utiliser la lavande dans beaucoup de choses, notamment la cuisine ou encore dans les vêtements pour que ça sente bon.
Oui, moi je me rappelle, ma grand-mère, ma maman faisait les petits bouquets pour mettre dans les pans de riz et ça sent super bon.
C'est très agréable, oui. Ouais. Je l'ai fait l'année dernière, c'est pour ça que je le dis. C'est très facile à faire, il faut juste avoir un peu de temps devant soi, mais ça se fait facilement même pour les gens qui ne sont pas doués comme moi. Voilà.
Non, c'est pas très compliqué, c'est vrai.
Vous allez également nous parler des rosiers non remontants, me semble-t-il.
Rosiers non remontants, donc c'est ce qu'on avait parlé une fois, c'est ceux qui fleurissent donc une fois, donc on peut les tailler après la floraison. Donc on va les rabattre de 20 à 30 cm, pas plus pour le moment, parce qu'ils ont fini leur floraison. Donc ça, il faut le faire maintenant. À faire. Donc aussi, toujours couper les roses fanées, comme on avait parlé l'autre fois, des rosiers qui continuent à fleurir là, jusqu'au mois de décembre. Donc ce sont les rosiers remontants, ça, qui fleurissent donc du mois de mai au gelé, comme on avait dit. Mm-hmm. Donc toujours couper les roses fanées derrière, au-dessus d'une feuille. Il y a beaucoup de lierre en ce moment en façade donc qui a poussé. Le lierre, c'est très beau, mais il faut le tailler, il faut le maîtriser. Le couper à la cisaille, c'est joli. J'en ai fait cette semaine un lierre qui n'avait pas été taillé sur une pergola de, on va dire, ouais, 8-10 ans. J'ai fait 2-3 entrées en arrondi, c'est magnifique. Après, le lierre, une fois bien maîtrisé, taillé à la cisaille, c'est très beau. Mais il ne faut pas se laisser gagner, quoi. Parce qu'il y a le lierre vert, le lierre panaché, le lierre gloire maringo, il y a plusieurs variétés. Vous en avez sur les façades, comme on avait parlé une fois, mais il ne faut pas le laisser grimper sur les tuiles, tout ça, il faut l'arrêter avant, quoi. Parce qu'après, ça arrache les tuiles, le bois, tout ça, c'est pas très bien.
Oui, non, c'est impressionnant, le lierre, sa façon de s'agripper un peu partout.
Mais bon, reste à savoir que le lierre sur une façade, c'est pas dangereux parce que c'est une très bonne isolation pour le froid et pour le chaud.
C'est ce dont vous nous aviez parlé la dernière fois, oui.
Mais il faut le maîtriser tout simplement. Au moins une ou deux fois par an, il faut le couper, l'égaliser. C'est à prévoir.
Ensuite, vous allez nous rappeler, pour les écorces, c'est le mushing.
Oui, donc ça, j'en ai fait beaucoup cette année. Donc je repasse chaque fois chez mes clients pour regarder les travaux qu'on a effectués. Et les gens sont ravis et très contents de ces écorces, ces mulching, parce qu'ils ont gagné en arrosage, en fait. Avant, enfin, s'ils arrosaient deux fois par semaine, ils ne le font plus qu'une fois. Les massifs sont nettement plus beaux, les plantes poussent nettement plus vite. Ils sont plus jolis et puis ça garde l'humidité, reste nettement mieux au sol en fait.
Et rappelons aussi pour les paresseux que ça permet d'éviter d'avoir à trop enlever les mauvaises herbes chaque année. Ouais. Donc c'est vrai que c'est tout bénef, comme on dit, tout bénef avec les écorces et le mushing.
Puis en aspect, en fait, un morceau avec écorce et sans écorce, vous allez voir la différence. C'est plus joli en aspect déjà à l'œil, ça n'a rien à voir.
Encore, vous aviez dit la dernière fois que ça faisait ressortir les plantes avec ces jolies couleurs contre ce marron des écorces.
Oui, c'est très très joli, franchement.
On va finir sur les étapes dans la conception des jardins.
Donc, prévoir un jardin, c'est très important, mais bon, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Vous allez nous révéler vos petits secrets alors, Serge.
Si vous avez déjà, bon, si c'est une maison que vous avez achetée, qui est déjà en place, je pense qu'il y a déjà du végétal, sûrement.
Normalement.
Plus ou moins, oui. Donc, voir si vous avez des gros arbres qui sont près de la maison, malheureusement, si c'est un platane ou un mi-coucoulier ou un pin qui est à 2 mètres de la maison, je pense qu'il faudra peut-être envisager de le couper. C'est malheureux, mais bon, point de vue racinaire, ça fait des racines énormes et ça va vous démonter les terrasses, les murs et tout. Donc ça, c'est des trucs, malheureusement, il faudra y passer par là. Donc après, prévoir des entreprises spécialisées dans l'élagage. Pas faire venir n'importe qui parce qu'il y a beaucoup de charlots là-dedans, malheureusement.
Comme on l'a dit déjà les semaines précédentes. Ouais. Oui.
Donc ça, après, bon, si vous avez d'autres végétaux, arbustes, tout ça à conserver, s'ils ne sont pas gênants autour de la maison, à retailler, à retravailler, c'est sympathique. Vous m'envoyez des photos, je vous dirai ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Après, donc, si vous faites votre jardin où il n'y a rien, vous allez perdre votre maison, qu'elle n'est pas encore en place. Prévoir l'emplacement donc, de la maison avec votre architecte, où va se trouver votre maison. Et prévoir après où c'est que vous allez faire, si vous avez des voisins ou pas de voisins. Prévoir à vouer ou pas vouer, ce que vous allez planter, pas faire. Donc ça, il faut y réfléchir bien à l'avance. Faire un petit croquis déjà, dire je vais faire une haie ici pour me préserver du voisinage, qui va monter à telle hauteur, une haie champêtre, moitié fleurie, moitié persistante, qui va monter à telle hauteur ou plus haut. Comme on avait dit l'autre fois, si c'est plus de 2 mètres, il faut se mettre à 2 mètres de la clôture. Donc ça, il faut bien regarder, aller demander à la mairie, les lois, s'ils n'ont pas changé entre-temps, tout ça. Savoir où c'est que vous allez créer vos massifs. Ça aussi, il faut le mettre sur un crayon, dire je vais mettre tel arbuste à tel endroit, un massif de rosiers. Les gazons aussi, les emplacements aussi. Là, je vais faire gazon, piscine. Il faut prévoir tout à l'avance, pas faire n'importe quoi. Les arrosages automatiques aussi, les départs. Donc ça, ça se prépare à l'avance. Voir si votre terrain aussi est argileux. Si vous avez une terre qui est trop argileuse, il faudra penser à faire un apport de terre végétale en moins de 20 cm, entre 15 et 20 pour un gazon. Et à la plantation, apporter un bon terreau plantation, comme on a dit plusieurs fois, pour vos arbustes, vos arbres. Donc tout ça, c'est à réfléchir avant et à préparer, parce que je pense qu'il faut le faire, quoi. Un jardin, ça ne se fait pas comme ça, d'un claquet de doigts. Et...
Ah non.
C'est comme une maison, en fait. Hein. Donc,
C'est l'extension de la maison, au final.
Le jardin, c'est important, parce que c'est ce qu'on voit dès qu'on arrive. Donc à bien réfléchir au départ... Il n'y a pas de souci, vous me demandez des conseils, je suis là pour vous les donner, sans problème.
Rappelez peut-être à nos auditeurs votre numéro de téléphone, Serge, pour vous appeler.
Oui, 06 23 50 94 97.
C'est noté.
Je vais parler de deux petits magasins qui se trouvent dans la rue des Marchands. Très sympathique.
Alors, indiquez peut-être pour ceux qui ne connaissent pas bien Manosque, la rue des Marchands, où est-elle située ?
Elle est située donc juste après la mairie, une petite rue qui monte en allant sur cette petite rue.
Direction Soubéran, c'est bien ça ?
Tout à fait, mm-hmm. Oui. Il y a un très beau petit magasin au numéro 19 déjà, où ils vendent des bouddhas, des trucs comme ça, très sympathiques, avec des animaux qu'on peut mettre dans les jardins. Ce sont des produits qui sont importés d'Indonésie, qui sont pas très chers en plus et très sympathiques. Hélène est très gentille, vous allez la voir de ma part, elle vous accueillera très sympathiquement. Franchement, il y a de très beaux bouddhas, de très gros animaux dans des prix, mais vraiment pas très chers, qu'on peut adapter dans un jardin, sur un gazon. Si on fait un bassin, on peut mettre un très très beau bouddha. Moi, j'en ai fait pas mal avec un beau bouddha, ça fait très zen, c'est sympathique.
On va finir par faire du feng shui avec vous au final, Serge.
Alors aussi des fontaines, très très jolie, belle petite fontaine. Ben, je pense que c'est un magasin qu'il faut aller voir et visiter, c'est très bien. Un peu plus haut, il y a un magasin Mille et une Perles, ma copine.
Et oui, c'est une sacrée institution Mille et une Perles à Manosque.
Ouais. Très très beau magasin. Maintenant, on le fait des accessoires aussi pour le jardin, des lampes de jardin, des petits pots, des cigales très sympathiques, vous verrez à l'intérieur, avec des petits pots en zinc, plein de petits trucs sur le jardin, où c'est provençal, avec des lavandes, tout ça. C'est à voir, donc je pense qu'il faut s'arrêter. Donc allez voir ça, c'est bien, je pense, sur Manosque. Ces deux magasins sont à voir.
Oui, et puis tous les magasins dans la rue des Marchands et qui va jusqu'à la rue Marcel Pagnol, si vous y jetez un coup d'œil, vous trouverez votre bonheur, parce que oui, c'est très très sympa.
Il y a pas mal de petits jardins très, très sympathiques à voir. Je tenais à dire un petit truc sur le jardin aussi.
Allez-y Serge.
Pratiquer un exercice physique sont des éléments basiques qui améliorent l'énergie corporelle et l'activité. Donc le jardin, il contribue largement, biner, arroser, tailler, désherber, exige des mouvements variés, des changements des positions, des efforts musculaires, accélère le métabolisme et qui favorise l'antistress qui est bien pour la tête, en fait, qui va dégager des tas de trucs, qui est très bon pour le corps. Donc, ce qu'on disait l'autre fois, donc jardiner, c'est la santé, à consommer sans modération.
Et oui, c'est une forme de sport pour ceux qui ne sont pas trop fanas de toutes les activités sportives extrêmes.
Non, c'est vrai que le jardin, c'est très, très important. Je vois beaucoup de gens très, très âgés là, dans les jardins. Ils me parlent toujours, mais moi, mon jardin, c'est très important. S'ils ne jardinent pas, ils sont pas bien, quoi. Je voulais dire un petit merci à un pote à moi qui m'écoute toujours à la radio, Monsieur Alain Hubert, très sympathique.
Ben bonjour à lui.
Donc, on va dire le prochain programme.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous l'avez déjà en tête?
Je l'ai déjà en tête. Pour cette fois-ci, c'est bien. Donc, dans 15 jours, les plantes de terre de bruyère avec la plantation. Choisir les grands arbres pour les grands jardins, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont des grands jardins, donc les arbres à choisir.
Malheureusement ou heureusement?
Oui, heureusement, oui, tout à fait. Alors après, plantes pour les bacs et jardinières, ce qu'on peut planter dans les bacs et jardinières, sur les terrasses ou autour des piscines éventuellement, donc ce qu'on peut y mettre ou pas y mettre dedans. 4. Plantation de bambou. Donc ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça c'est très important aussi parce que les bambous, ça pousse de partout.
Oui, c'est très envahissant.
Les arbres et les arbustes, leur identité. Eh oui, ils ont une identité comme nous, Alexia.
Je vais apprendre des choses dans 2 semaines, je le sens.
Ils ont une identité, donc on regardera tout ça et on révélera tout ça donc, à nos auditeurs et nos auditrices de Fréquence Mistral.
Eh oui, nos chers auditeurs et nos chères auditrices. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs que donc on vous retrouve toutes les 2 semaines sur Fréquence Mistral, mais que si vous n'avez pas pu avoir cette émission-ci en entier, vous pouvez retrouver l'émission sur et les émissions précédentes également sur fréquencemistral.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Serge pour votre jardin. On va dire merci beaucoup à nos auditeurs, merci beaucoup à vous Serge, et on se retrouve dans 2 semaines.
Merci Alexia et merci Monsieur Malabave, le directeur de Fréquence Mistral.
Bonne semaine à vous Serge.
Merci, au revoir.
À bientôt. Thank you.